affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour, merci de votre fidélité. Dans notre émission de cette semaine, il sera question d'art, mais aussi de marché de l'art, du marché de l'art. Nous commencerons donc par l'énoncé de quelques chiffres. Voici quelques semaines, un triptyque de Bacon a été adjugé 135 millions de dollars. Est-ce représentatif du marché de l'art ? Cela fera partie des questions que nous aborderons avec notre invité. Car aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Damien Leclerc. Damien Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Damien Leclerc, commissaire-priseur à Marseille. Vous êtes considéré comme emblématique de la nouvelle génération de commissaires-priseurs, même si vous êtes par ailleurs vice-président du CIMEV. Le CIMEV, c'est le syndicat national des maisons de vente volontaires. Vous nous direz tout à l'heure ce dont il s'agit exactement. Et vous êtes donc situé au carrefour, au point de rencontre entre le monde du marché de l'art, celui de l'économie, celui de l'argent, certains diront celui de la spéculation, et celui de la passion et bien sûr des valeurs que ne manque pas de susciter l'art et le goût du beau. Pour commencer, je voudrais donc revenir sur le montant de cette adjudication et puis d'autres, parce qu'on pourrait aussi parler, voici quelques mois, d'une œuvre de Munch adjugée 119 millions de dollars, d'une autre, il y a un petit peu plus longtemps, adjugée 200, non pas adjugée, parce qu'elle était vendue dans un autre cadre, une œuvre de Cézanne, 250 millions de dollars. Est-ce que ces montants sont représentatifs du marché de l'art ou finalement nous offre-t-il une vision déformée de la façon dont fonctionne ce marché aujourd'hui ?
Ces montants sont effectivement très impressionnants. Ils sont aujourd'hui très médiatisés. On en entend beaucoup parler. Chaque année, un ou plusieurs nouveaux records interviennent. Ils ne sont évidemment que la face émergée de cet iceberg qu'est le marché de l'art. Le marché de l'art, en France notamment, est constitué d'enchères beaucoup plus raisonnable, de l'ordre de quelques milliers d'euros en moyenne. Le marché de l'art, les commissaires-priseurs sont un grand nombre en France, puisqu'ils sont plus de 400 opérateurs. Et seulement une dizaine d'enchères chaque année en France dépassent le million.
Donc, qu'il y a peut-être une première précision à donner, c'est que les montants que j'ai donnés ne se sont pas produits sur des ventes qui ont eu lieu en France.
Ces grands records qui interviennent sont généralement adjugés aux États-Unis. Ils sont même tous adjugés aux États-Unis. L'année dernière, la plus grosse enchère française a été de 9 millions d'euros. Il s'agissait d'une sculpture chinoise.
Une sculpture chinoise en France. On a plutôt l'image qu'on s'en fait sans être spécialiste, c'est que la spécialité quand même en termes de période ou d'art, c'est plutôt quoi ? L'école de Paris, habituellement en France, non ? La seconde école de Paris ?
En France, on trouve beaucoup de choses. C'est considéré un petit peu comme le grenier, un vaste champ de découvertes pour les amateurs, pour les collectionneurs. En France, on trouve beaucoup de livres anciens, beaucoup d'art ancien, de tableaux anciens. On trouve de l'art moderne, bien sûr, de l'art impressionniste, jusqu'à l'école de Paris. Mais on trouve aussi beaucoup de choses. La France est considérée comme l'un des principaux exportateurs d'objets d'art dans le monde.
Oui, d'ailleurs, j'ai lu ce matin que dans les chiffres plutôt positifs, cette fois, enfin, il y a une amélioration en tout cas de notre balance commerciale, l'exportation d'œuvres d'art tenait une place importante, soulignée par plusieurs journaux économiques comme l'Expansion, par exemple. Est-ce que ça signifie que finalement l'art dans notre pays est essentiellement un héritage et que nous ne sommes plus dans la création et que désormais le marché de l'art pour nous consiste à vendre, pardonnez-moi cette expression triviale, à vendre les trésors de famille ?
Vendre, exporter de l'art aujourd'hui démontre aussi le vitalisme et le savoir-faire des structures françaises, des marchands, des galeries, des maisons de vente. Le marché d'art est un marché particulier, c'est un marché d'art très mondialisé. Vendre une œuvre d'art à l'étranger n'est pas synonyme d'un départ irrémédiable de l'œuvre d'art. Les œuvres d'art reviennent aussi. il faut envisager ce marché de l'art selon des critères très particuliers qui sont dictés par les pays acheteurs. Les pays acheteurs changent. Aujourd'hui, on parle beaucoup, bien sûr, des Chinois, mais avant, on a parlé des Russes. Et puis encore avant, il y a une vingtaine d'années, des Japonais, des Américains. Mais par exemple, aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un Français rachète une œuvre d'art qui a été exportée il y a 20 ans. Donc en fait, il ne faut pas considérer toute œuvre d'art vendue à l'étranger comme perdue, loin de là.
Vous voulez dire que le marché de l'art, en fait, contribue à faire circuler les œuvres, ce qui serait positif?
D'une certaine manière, c'est positif. Une œuvre d'art est faite pour être, effectivement, quand elle est vendue à un collectionneur, pour être aimée, pour être possédée, mais aussi pour être étudiée, pour être prêtée, quand c'est une œuvre d'art importante, à des institutions, à des expositions. Donc tout cela participe de ce que l'on appelle le marché. Et le marché de l'art aujourd'hui est complètement mondialisé.
À tel point d'ailleurs, vous me le disiez en préparant cette émission, que désormais, on pense souvent que le marché de l'art est mondialisé à travers quelques maisons installées sur tous les continents, comme Sotheby's ou Christie's pour ne pas les citer, mais que également, vous disiez il y a quelques instants qu'il y avait plus de 400 maisons de vente volontaires en France, c'est cela ?
Voilà, 420 opérateurs environ.
Voilà, 420 opérateurs, et parmi eux, même ceux qui sont désormais installés en province, vous êtes installés en Provence, mais d'autres sont installés simplement en province, ont des clients venant de tous les continents.
Grâce à des moyens essentiellement de référencement Internet, aujourd'hui, nous vendons effectivement aux quatre coins du monde nos objets d'art importants, les plus importants bien sûr, mais aussi des objets d'art plus modestes à quelques milliers d'euros. Il n'est pas rare d'adjuger à un Indien, un Chinois, un Turc, un objet d'art à quelques milliers d'euros et ensuite donc de l'expédier à l'acheteur. En direct, aux collectionneurs en direct. Cette mondialisation est passée effectivement par ces moyens techniques que sont le référencement, donc sur des sites spécialisés, sur Internet, et sur la possibilité de pouvoir communiquer à distance, de pouvoir envoyer des fichiers photographiques lourds, de pouvoir aussi s'engager sur des rapports de conditions précis concernant l'état et l'authenticité de ces objets. Donc on vend beaucoup à distance, y compris des objets moyens.
Est-ce que vous vendez aussi des œuvres qui viennent d'autres continents ? Est-ce que le flux se déroule dans les deux sens ?
Voilà, ça peut arriver bien sûr. On a beaucoup parlé ces derniers temps effectivement de la taxe de la TVA à l'importation sur les œuvres d'art. Et donc en France, on peut importer des œuvres d'art, vendre des œuvres d'art qui viennent hors de la CEE. Ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement aujourd'hui, car Paris ou la place française est bien placée dans certains domaines pour vendre des choses. Elle a des opérateurs qui sont donc forts et présents. Donc il n'est pas rare qu'un collectionneur confie des objets d'art à un collectionneur hors CE, confie à des Français un objet d'art pour la vendre.
Alors il le fait pour quelle raison ? Parce qu'il pense que finalement cet objet étant relié à un pan de l'histoire française ou de l'histoire de l'art lié à la France, cela fait davantage sens de vendre cet objet ou cette œuvre à Paris ?
Confier un objet d'art à un commissaire-priseur, à un opérateur de vente est une opération qui est basée sur la confiance, dans l'enthousiasme que va mettre donc cet opérateur, cet intermédiaire à défendre votre objet. Donc c'est quelque chose peut-être d'un petit peu mystérieux. En tout cas, se nouent des relations de confiance, y compris à travers les continents, qui font que l'on confie des choses à tel ou tel pour qu'elles se vendent au mieux, effectivement, puisqu'on est quand même dans le domaine du rêve où l'on espère toujours plus, les vendeurs espèrent toujours plus pour vendre leurs objets.
Vous parlez du domaine du rêve. On touche là à une difficulté, celle de l'évaluation de l'objet, celle de l'évaluation d'une œuvre d'art. On a parlé tout à l'heure de montants totalement astronomiques, mais j'imagine que même pour le grand public, on a parfois le sentiment que la valeur du prix, le montant atteint par une adjudication peut-être déraisonnable. Quels sont les critères ? Est-ce que finalement, est-ce que tout cela est rationnel ou tient à quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement. Ce qu'on peut penser lorsque vous utilisez des termes comme rêve, magie ou autre.
Estimer une œuvre d'art est effectivement l'essentiel de notre métier. Priseur veut dire estimer. C'est quelque chose qui va faire appel à tout un environnement, donc à la culture générale du commissaire priseur, à la manière dont il appréhende l'objet, mais aussi à une certaine intuition, il est vrai. Tout ne s'évalue pas de la même manière. Nous sommes dans un domaine où l'on transmet non seulement un objet concret, mais on transmet aussi tout son environnement culturel, symbolique, historique. Et cet environnement change beaucoup d'un objet à l'autre, même de manière infime. Et il faut effectivement savoir croire de manière démesurée en certains objets, ou au contraire, parfois, il arrive qu'il faille être plus timide sur certains autres. C'est là, en fait, la part intuitive de notre métier, qui est d'estimer les choses. C'est une confrontation aux objets d'art et une certaine expérience qui fait que l'on donne un prix, que l'on donne un prix suite à notre expertise, que l'on donne une estimation pour ensuite le soumettre au feu des enchères, enchères qui restent la garantie d'une transaction au juste prix.
Oui, car de l'ordre des enchères, on en est à la confrontation de l'offre et de la demande.
Voilà. Donc en fait, le commissaire priseur va, au-delà de cette expertise, de cette estimation, est aussi un communicant. Il va donc communiquer autour de cet objet, communiquer par ces référencements Internet dont on a parlé, mais aussi bien sûr les catalogues, les ventes qu'il organise, communiquer pour toucher un maximum de collectionneurs aujourd'hui de par le monde et les mettre en compétition, leur faire aimer, leur faire découvrir cet objet, ce tableau qu'il présente, pour qu'ils puissent effectivement l'acquérir au prix du marché en quelque sorte.
Vous êtes un agent à la fois de confiance, parce qu'il y a une estimation donnée au départ, parce que dans vos catalogues, il y a toujours une estimation du prix de l'œuvre. C'est bien cela.
Voilà, dans le catalogue, chaque pièce est estimée. Et le commissaire priseur, en fait, c'est une sorte de tiers de confiance, puisque aussi bien le vendeur que l'acheteur lui font confiance. Font confiance dans la qualité de son expertise, de son estimation, dans la qualité de sa communication. Donc, c'est cet intermédiaire qui est le commissaire-priseur, effectivement, doit rester neutre, en quelque sorte, et surtout garant de l'authenticité de l'objet. C'est une garantie assez forte en France, puisque toutes les mentions du catalogue engagent très fortement la maison de vente et son expert, s'il y a lieu. Donc, en fait, un commissaire-priseur doit, en quelque sorte, diffuser la confiance qui permet au marché de l'art de s'épanouir.
C'est d'autant plus important qu'effectivement, c'est parfois un petit peu nébuleux. Alors, comment procédez-vous ? Vous recourez au service d'experts. La dernière convention nationale du syndicat dont vous êtes vice-président s'est tenue en coopération assez étroite avec un syndicat d'experts en œuvres d'art. Comment fonctionnent vos relations avec ces experts ? Lorsque vous recevez une œuvre, comment établissez-vous ces critères pour ensuite déterminer non seulement l'authenticité, mais le prix ?
Le marché d'art, évidemment, est marqué par une très grande complexité. Une très grande complexité de l'objet, des techniques d'expertise, d'approche de chaque catégorie d'objets devient de plus en plus fine et complexe. Donc, les maisons de vente, les commissaires priseurs, qui gardent une compétence assez généraliste, doivent s'entourer d'experts, d'experts de tous ordres, dans toutes les catégories, d'experts plus ou moins spécialisés. Ça peut être un expert pour la peinture 17e ou un expert même pour tel ou tel artiste, un spécialiste pour tel ou tel artiste. Ces experts peuvent intervenir à la vente et garantir, avec la maison de vente, les mentions du catalogue. Et c'est une garantie supplémentaire pour l'acheteur et le vendeur de l'authenticité de l'objet qui est vendu. Donc c'est une des spécificités du marché français aussi que cette garantie sur l'authenticité très forte.
Ça n'existe pas de la même façon dans d'autres pays.
Dans le monde anglo-saxon, la garantie est moins développée.
On a davantage une relation contractuelle où chacun prend ses responsabilités, c'est ça que vous voulez dire ?
C'est certain. En France, la règle est que toutes les mentions du catalogue nous contraignent. Donc une erreur, par exemple, sur des dimensions, par exemple, sur la technique et bien sûr sur l'authenticité, aboutiront très facilement et rapidement à une action en annulation de la vente qui pourra être menée par l'acheteur ou le vendeur.
Cette spécificité est probablement due, j'imagine, au passé de votre profession, puisque initialement, les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels, mais j'ai cru comprendre que ce n'était plus toujours le cas aujourd'hui.
Notre métier a fait l'objet d'une grande réforme en 2002, dite loi de libéralisation de la profession, réforme qui a trouvé un nouvel aboutissement en 2011 par une autre loi. Et notre métier a été en quelque sorte scindé en deux grandes parties. La vente judiciaire, pour lesquelles les commissaires-priseurs sont restés sous l'ancien statut d'officier ministériel, qui concerne en fait assez peu le marché de l'art. Et des ventes volontaires, qui sont des ventes en fait dans le cadre de succession ou des collectionneurs qui vendent un ou plusieurs objets, elles ont été soumises à un nouveau statut. Ces ventes volontaires ont été confiées à des OVV, opérateurs de ventes volontaires, qui restent une profession réglementée,
Sans le statut d'officier ministériel.
Sans le statut d'officier ministériel pour cette partie du métier, et avec une plus grande liberté d'action, la possibilité de faire des ventes de gré à gré, la possibilité de réinventer aussi ce métier qui venait du fond des âges.
Alors toutefois, si je ne me trompe pas, même les commissaires-priseurs judiciaires peuvent toutefois avoir une partie de leur activité qui est consacrée à la vente volontaire. C'est bien ça. C'est-à-dire que la distinction n'est pas entre ceux qui... Il n'y a pas d'un côté des hommes qui font de la vente volontaire et d'autres du judiciaire, mais chacun doit scinder les deux activités.
Voilà, on peut cumuler les deux activités. Et d'ailleurs, 75% environ des opérateurs de vente français cumulent ces deux activités, volontaires et judiciaires, dans des structures qui sont séparées, mais le même opérateur les cumule.
Et par ailleurs, même si l'on n'est pas commissaire-priseur judiciaire et officier ministériel, on se considère comme héritier de cette longue tradition.
Bien sûr, notre métier a une identité forte, celle de commissaire-priseur. C'est un métier qui, en France, vient vraiment du fond des âges, qui est marqué par une grande responsabilité, une déontologie, une grande autorité. On accorde une compétence importante au commissaire-priseur, une compétence généraliste. Et l'une des conséquences de cet ancien statut, c'est qu'il existe effectivement 400 opérateurs disséminés sur tout le territoire français, dans toutes les petites villes. Il y a une maison de vente, il y a un commissaire-priseur qui organise des ventes, qui organise des expertises. Donc il y a un maillage très fin du territoire en France qui est un héritier de cet ancien statut des commissaires-priseurs.
Alors ce qui est intéressant, c'est que précisément, je lisais récemment dans le Journal des Arts, pour ne pas le citer, un article consacré au palmarès culturel des grandes villes, palmarès consacré au dynamisme culturel des grandes villes, c'est-à-dire à la fois des villes moyennes et plus importantes, à l'exclusion de Paris, qui ne figure pas dans le palmarès parce que sa place est évidente. Et dans cet article était souligné le rôle finalement des opérateurs de vente volontaire, c'est-à-dire des commissaires-priseurs de vente volontaire, dans l'animation culturelle. Est-ce que ce n'est pas un des signes importants des mutations à la fois du marché de l'art et de la frontière qui se brouille entre le monde marchand et non marchand, et aussi de l'évolution de votre profession ?
Le commissaire-priseur est effectivement placé à un poste stratégique entre les mondes économiques et culturels. Il a une mission qui est clairement économique, puisqu'il est chargé d'organisation de vente, mais il y a aussi une mission culturelle, puisqu'il transmet, au-delà des objets qu'il vend, tout l'environnement de ces objets, donc leur histoire, leur valeur symbolique, il transmet leur valeur culturelle. Donc le commissaire-priseur est aussi un acteur culturel, il est perçu comme tel d'ailleurs, comme un acteur culturel intégré dans la vie de sa cité.
Est-ce que ça ne va pas à l'encontre finalement de cette vision quand même, hélas assez française, de considérer que la culture doit être protégée du monde de l'argent, protégée du marché, et finalement être la propriété, ou la chose plutôt, pas la propriété, ce sera encore le marché, être la chose du monde public. Est-ce que les mentalités évoluent de ce point de vue-là, selon vous ?
La mentalité évolue. La mentalité évolue grâce à nos clients qui sont des collectionneurs, qui fréquentent les institutions, qui fréquentent nos salles des ventes. La mentalité évolue grâce aux commissaires-priseurs qui prennent des conseils, qui fréquentent les conservateurs. Tout ça, le monde culturel est un monde en soi qui ne peut que prospérer et s'enrichir mutuellement. Nous avons dans les salles des ventes... nous vendons régulièrement des choses aux institutions culturelles. Cela crée des contacts, cela crée des liens. Nous entretenons des liens avec le monde de la conservation, avec le monde des archives. Nous entretenons des liens avec les institutions. Beaucoup de maisons de vente organisent aussi des événements culturels, que ce soit des conférences, des expositions, des résidences d'artistes. Nous sommes vraiment dans le marché de l'art et spécifiquement dans les maisons de vente aux enchères, à la croisée des chemins entre des mondes culturels et économiques.
Vous êtes à la croisée et au point de contact.
Voilà, au point de contact. Et dans une salle de vente, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de ventes déjà dans des domaines très variés. Il peut y avoir aussi bien des ventes de philatélie que d'art contemporain, des ventes de bijoux que d'art ancien, d'art chinois que de design, de photographie. Donc déjà, tous ces mondes-là se télescopent dans l'univers de la salle des ventes, se croisent, se rencontrent. Et c'est là aussi que le commissaire-priseur a un rôle de proposition et de mise en relation qui est intéressant. Au-delà, strictement des ventes, il se passe aussi dans les salles des ventes des événements culturels. Il y a des expositions, des conférences. Il se passe beaucoup.
Déjà, si j'ai bien compris, avant chaque vente, il y a nécessairement une exposition. C'est-à-dire qu'on peut aller découvrir les objets qui seront mis en vente in situ.
In situ, sans même nécessairement être acheteur. C'est un endroit où l'on présente ces objets. Effectivement, cette exposition dure un jour, deux jours, trois jours. Vous y trouverez le commissaire-priseur qui vous parlera des objets ou les experts qui vous les présenteront. Ces expositions en elles-mêmes ont souvent... Un propos culturel, un propos éditorial. Le commissaire-priseur a voulu dire quelque chose en réunissant ces objets, en les présentant ensemble, en les mettant en situation dans un catalogue, en rappelant leur importance historique ou artistique ou culturelle, en organisant des événements autour de ces expositions, événements qui peuvent être la rencontre d'artistes ou de conservateurs ou toute autre chose.
Donc, ce que voulait nous dire, Damien, oui. C'est que dans les 400 maisons de vente actives en France, il y a chaque année des expositions thématiques, temporaires, dans lesquelles on peut bénéficier quasiment de visites guidées, gratuites, puisque j'imagine qu'on ne paye pas l'entrée d'une exposition qui se déroule dans une maison de vente.
On ne paye pas, évidemment. La définition d'une vente publique est qu'elle soit parfaitement publique, donc, et l'exposition qui la précède également. Donc quasiment chaque semaine, allez dans les hôtels des ventes près de chez vous, allez à Drouot si vous êtes parisien, ou dans les hôtels des ventes parisiens, allez dans votre hôtel des ventes en province, et allez voir des objets. Alors, la particularité dans ces expositions, c'est qu'il y a un grand mélange d'objets, ce qui est très pratique pour se faire l'œil, comme on dit, pour apprendre, pour comparer. En tout cas, c'est très enrichissant.
C'était ce rapport à l'objet, finalement. Est-ce que ce n'est pas finalement le cœur de votre métier ? Lorsqu'on vous entend parler, finalement, c'est un des termes qui revient le plus souvent. L'objet, le rapport à l'objet, la fréquentation de l'objet... C'est l'objet qui est au cœur de ce métier ou les rapports humains ? Le rapport humain, je veux dire, le rapport entre, par exemple, entre vendeur et acheteur. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui met en rapport les institutions, les conservateurs, les collectionneurs ? Ou est-ce que c'est centré sur l'objet ?
Alors, c'est vraiment les deux aspects de notre métier entre lesquels je n'arbitrerai pas. Effectivement, nous avons un contact très concret, je dois dire, avec l'objet, puisque nous en manipulons, nous en découvrons tous les jours. Nous sommes tous les jours obligés de nous engager, même rapidement, sur un objet, de le décrire, de l'orienter vers tel ou tel expert. Donc là, c'est un rapport très physique, très, très concret. C'est un rapport de poids, d'odeur, en quelque sorte, avec l'objet. Au-delà, et c'est quand même lié aussi, la grande richesse de notre métier et la fréquentation de ces collectionneurs qui sont tous des passionnés et qui sont tous, en fait, à leur manière, assez communicatifs de leur passion. Je suis toujours étonné, moi-même, dans les matières les plus austères ou arides, de la capacité de communication de la passion d'un philatéliste ou d'un érudit qui vient s'émerveiller devant un objet. Et là, on se dit, tiens, là, cette personne s'est tellement émerveillée devant cet objet qu'il doit y avoir quelque chose et on a envie de creuser derrière. Donc, en fait, cette fréquentation des passionnés, que sont les collectionneurs, que sont les acheteurs d'objets d'art, est réellement très enrichissante.
Alors, vous parlez de catégories précises que sont les collectionneurs et les amateurs d'art. En préparant l'émission, j'ai lu la revue de votre syndicat, la revue du CIMEV, et il était question aussi de nouveaux publics. De nouveaux publics plus en lien avec les tendances, avec des tendances et des évolutions plus profondes de notre société. Pour prendre un exemple, vous mettez en avant l'arrivée de nouveaux publics liés au désir de possession d'objets plus durables. Dans une société qui jusqu'ici était quand même marquée par une progression résistible, semble-t-il, finalement, du jetable.
Effectivement, un commissaire-priseur, une maison de vente, ne peut pas se contenter de vendre ce qu'on lui apporte. Il doit aussi avoir un rôle prospectif, aller chercher quels seront les nouveaux marchés, ce que les marchés de demain, les nouvelles tendances. Il doit aussi, selon ses goûts évidemment, aussi proposer, avoir un rôle de proposition. C'est vrai que dans ces nouvelles tendances, on voit beaucoup de ventes consacrées au design, à la photographie ancienne, au vintage. On peut imaginer que dans un monde lié à la consommation, aux produits jetables, les nouveaux collectionneurs, qui n'ont pas encore des collections très constituées, soient tentés par ces objets qui ont une histoire, qui ne sont pas recyclables en quelque sorte, qui vont avoir une forme particulière, une histoire particulière que l'on va pouvoir découvrir, que l'on va pouvoir creuser. Donc ces objets anciens, en fait, qui avaient été un petit peu exclus des circuits de distribution, comme le mobilier, on pense au mobilier des années 70 ou du mobilier des années 50, on va le redécouvrir et lui redonner son importance dans l'univers des formes.
C'est-à-dire que ce grand mouvement qui pousse la société vers ce qu'on appelle le développement durable s'incarne aussi, selon vous, dans la quête d'objets durables, c'est bien ça ?
En quelque sorte, ces objets en fait que l'on va rechercher, c'est des objets qui ont un sens quelque part, dans un sens dans l'histoire de l'art, un sens dans l'histoire des formes, un sens pour le design par exemple dans l'histoire de l'architecture ou du mobilier, et c'est un sens que l'on avait un petit peu oublié et que l'on va redécouvrir à l'occasion d'une trouvaille qui peut être une trouvaille d'un objet relativement bon marché aussi. Hein. Mais en tout cas, plutôt que d'aller se meubler dans des circuits de grande distribution, de retrouver un sens dans la collection d'objets, d'enrichir petit à petit effectivement son intérieur de nouveaux objets, de nouveaux tableaux, c'est redonner un sens à son habitat, à son ameublement notamment.
Vous percevez donc au fil de la fréquentation de ces nouveaux publics une forme de quête de sens, de volonté de se réinscrire dans une identité, une histoire. Moi, enfin, vu de loin et sans avoir creusé le sujet, on a parfois l'impression que le vintage, comme vous l'avez dit, peut être quelque chose d'assez futile, une quête simplement de couleurs, ou on a l'impression que ça peut s'inscrire dans une espèce d'effet de mode cyclique où finalement il y a une quête de nouveauté permanente. Vous percevez autre chose ?
Alors le vintage, proprement dit, est justement l'objet ancien d'époque par rapport à sa réédition. C'est ça la définition du vintage. Donc c'est la photographie avec un tirage ancien qui est dite vintage, l'accessoire de mode ancien d'époque dit vintage et non pas sa réédition, le meuble design des années 50 d'époque et non pas sa réédition d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est effectivement d'aller rechercher son sens, sa rareté, la manière dont il a été fait à l'époque et non pas sa production grand public qui a suivi de manière plus ou moins parfois dégénérée.
Pour accueillir ces nouveaux publics, vous l'avez dit, il y a la tentation et aussi la pratique qui consiste à organiser des événements autour des ventes. Alors comment cela se traduit-il ? Comment cela est-il reçu ? Et est-ce que ce n'est pas une volonté pour les publics, mais aussi pour les commissaires-priseurs, de réinscrire la culture près de chez soi ?
Chaque vente est un événement en soi. C'est la définition d'une vente. C'est chaque opérateur de vente, chaque maison de vente, chaque commissaire-priseur organise un événement quand il fait une vente, un événement qui est soumis à un rythme particulier et qui effectivement va marquer en quelque sorte l'acheteur. L'acheteur se souviendra d'être venu à l'exposition ou d'avoir repéré l'objet sur un catalogue, d'avoir convoité en quelque sorte l'objet, d'avoir espéré l'avoir, d'avoir tremblé que d'autres collectionneurs ne lui soufflent l'objet. Donc voilà, dans chaque vente, il va se passer quelque chose. C'est un événement en soi.
Oui, parce qu'une vente, c'est théâtral, par ailleurs.
Voilà.
Il y a toute une dramaturgie dans une vente aux enchères.
Une certaine dramaturgie, des codes propres. Le commissaire-priseur est aussi un acteur de théâtre. Il doit mener sa vente avec un rythme particulier qui font que les acheteurs s'y sentent bien, ont envie d'acheter, s'y sentent en confiance. Donc, effectivement, il y a quelque chose à voir avec le jeu, avec le théâtre, forcément.
Alors, pour assurer ces nouveaux publics qui seraient tentés d'aller dans une salle de vente, est-ce que lorsque l'on pénètre dans une salle de vente, cela signifie qu'on est obligé d'acheter ?
Alors, il faut être très clair. Une salle de vente, ce n'est pas une sorte de cocon fermé pour des connaisseurs. Une salle de vente, c'est un endroit ouvert dans lequel il suffit de rentrer. Personne ne vous demandera de compte. Vous pouvez y rentrer, ne serait-ce qu'en curieux. Observez comment les choses se passent. Observez effectivement ces petits rites de la vente aux enchères avec lesquels on se familiarise très vite. Acheter est en fait très simple. Hein. Il suffit de lever la main en quelque sorte pendant la vente.
Donc si on ne veut pas acheter, on ne lève pas la main.
Si on ne veut pas acheter, on ne lève pas la main et ça se passe très bien. la chose se fait en bonne intelligence de toute façon avec le commissaire priseur qui dirige la vente, qui est là effectivement pour vous aider, qui n'est pas là pour vous piéger. Et vraiment, il faut... Aujourd'hui, les commissaires-priseurs envisagent leur métier comme un partage de leur culture, de leurs connaissances, un partage des objets qui leur ont été confiés. Donc, n'hésitez pas à rentrer dans les hôtels des ventes, n'hésitez pas à venir aux expositions, à venir aux ventes et à acheter. Commencez par acheter un petit objet, comme ça vous allez tester un petit peu l'adrénaline de l'achat et puis petit à petit...
Petit à petit, jusqu'à acheter un triptyque de bacon à 142 millions de dollars.
Je vous le souhaite en tout cas.
Je faisais cette boutade uniquement pour rappeler qu'effectivement, dans les maisons de vente volontaires, lors des ventes aux enchères, finalement, on trouve un public qui partage des passions, mais qui ne mène pas forcément à des adjudications à de tels montants. On est bien d'accord. Quel est le montant moyen d'une enchère en France aujourd'hui ?
Le montant moyen est de quelques centaines d'euros pour le montant moyen d'une enchère en France. Alors évidemment, le marché de l'art est très diversifié aussi. Hein. 70% du montant des adjudications dans le domaine artistique se passe en Île-de-France. Et il y a aussi toutes sortes de ventes. Il y a des grandes ventes cataloguées. Il y a des ventes qu'on appelle courantes, des ventes non cataloguées, où l'on vend les objets comme ils se présentent.
Il y a, Donc là, c'est l'ambiance caverne d'Ali Baba.
C'est l'ambiance, effectivement, un petit peu de brocante, où on peut acheter des objets par carton, que l'on appelle des manettes, ou des meubles anciens, restaurés. Donc, effectivement, on peut y trouver de tout, même pour 10 euros. Hein. Et il y a aussi des ventes très spécialisées. Et c'est un petit peu la richesse des maisons de vente en France, c'est que les opérateurs cumulent souvent ces ventes. Ils peuvent faire une semaine une vente courante et la semaine d'après une vente très spécialisée dans l'art chinois ou le jouet ancien ou l'art populaire ou l'art moderne. Et il peut ensuite faire des grandes ventes cataloguées. Enfin voilà, donc il y en a pour tous les goûts, vraiment, pour tous les goûts, pour tous les budgets et pour tous les goûts.
Alors, ce qui est fascinant, c'est dans cette profusion d'objets, comment faites-vous pour les trouver ? Dans, dans la littérature de votre syndicat, il est souvent mis en avant que vous n'êtes pas seulement des vendeurs ou en tout cas des professionnels qui aident à l'expertise ou à la vente, mais aussi des découvreurs. Alors tous ces objets, comment les découvrez-vous concrètement sur le terrain? Comment cela se passe-t-il?
C'est découvrir ces objets, c'est effectivement l'enjeu et c'est la difficulté de notre métier. Les objets d'art, bien sûr, sont des objets rares. Et ces objets, nous allons les chercher par différents moyens. Beaucoup dans les inventaires de succession, mais aussi en développant une compétence propre dans tel ou tel domaine qui fait que la communauté des collectionneurs capte cette compétence et vous confie ensuite des objets à vendre en art déco, en photographie ou que sais-je encore. Et puis il y a le hasard, les rencontres. Nous sommes effectivement en quelque sorte des chasseurs de trésors. Nous sommes toujours à l'affût de l'objet rare. C'est pour ça un métier assez trépidant.
Vous avez tout d'un coup les yeux qui brillent. C'est-à-dire que le matin, lorsque vous levez, est-ce que vous levez avec cet espoir de trouver la perle rare, le tableau perdu, la sculpture engloutie, dans un musée, non pas dans un musée, parce que ce serait du vol, mais plutôt dans un grenier poussiéreux. Ça se produit encore, ce genre de choses?
Oui, bien sûr, ça se produit tous les jours. Effectivement, nous cherchons tous les jours des choses à vendre, et c'est l'aspect le plus trépidant de notre métier. C'est un côté inattendu. On peut être appelé, tous les commissaires-priseurs ont été appelés pour un inventaire ou pour expertiser un objet lambda et ont découvert à cette occasion un très beau tableau ou un très beau vase chinois. Donc, effectivement, c'est un côté... Moi, c'est la partie du métier que je préfère, c'est celle effectivement d'aller chercher des choses. Tous les jours, on a l'espoir de découvrir, et la palpitation de découvrir quelque chose de rare, et surtout quelque chose que personne n'a vu avant vous, quelque part. Effectivement, quelque chose d'oublié qui va susciter la convoitise, pourquoi pas, du monde entier.
Alors qu'éventuellement, il était exposé aux yeux de tous.
Parfois exposé aux yeux de tous, parfois oublié, effectivement, dans un grenier ou accroché sur un mur, ou quelque chose qui avait été, comme on dit, mal attribué au fil des temps, qu'on avait oublié, qu'on avait pris pour quelque chose d'autre, et que la sagacité de l'expert ou du commissaire-priseur aura remis à sa juste place.
Alors comment ça se passe pour découvrir de tels objets? Parce que... ça fonctionne au flair. Vous avez fait des études, bien sûr, j'imagine, des études d'histoire de l'art.
En fait, nous mettons effectivement en avant nos capacités d'expertise et souvent on nous appelle pour nous demander d'expertiser des choses. Effectivement, dans 90% des cas, ce sont des petites choses, mais bon, des petites choses qui peuvent valoir aussi quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Et parfois, on a la chance de trouver, il faut avoir cette intuition, effectivement, du bel objet. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas connaître à la fois la faïence du 18e et le mobilier du 19e et la céramique du 20e siècle et les bijoux et le vin et la sculpture. Donc, on ne peut pas tout connaître, mais on a des intuitions. On sait que telle chose a un potentiel. On va la soumettre à tel ou tel expert. Et puis, on va travailler. Là va commencer parfois une histoire, une belle histoire. Faire expertiser des choses aussi peut être très complexe. Ça peut être une opération qui dure longtemps. Il peut y avoir des déconvenues. Il peut y avoir des péripéties, des avis contradictoires. Donc, en fait, après, il y a tout un travail d'enquête autour de l'objet. Des objets les plus compliqués, dont le processus final est la vente, mais ça n'est que le processus final. Ça peut durer parfois des années, effectivement, avant que l'on arrive à ce processus.
Et vous voulez dire que les objets qui sont mis à la vente, parfois, le sont quelques années après leur découverte?
Oui, quelques mois ou années après leur découverte, oui.
Dans tout ce processus et dans tout ce métier, quels sont l'ensemble des intervenants? Parce que finalement, vous ne travaillez pas seul, puisque vous êtes généraliste, vous l'avez dit, vous ne pouvez pas être spécialiste de tout. Quels sont les différents intervenants, les étapes qui se produisent avant la vente proprement dite? Bon, il y a l'intervention des experts, bien sûr, vous l'avez dit. Y a-t-il d'autres intervenants? Quel est le processus?
Les deux grandes étapes sont, on l'a un petit peu dit, c'est effectivement l'étape d'expertise et d'estimation qui intervient avec des experts et des spécialistes et des ayants droit, donc en fonction des objets, des tableaux. Et la deuxième étape, c'est une étape de communication. Donc ça peut aussi passer par des attachés de presse, des plans de communication. On a un métier qui est un métier où il faut créer un élan, il faut créer une envie autour d'un objet, autour d'une collection que l'on va vendre. Il faut savoir la mettre en valeur. Parfois, on vend des objets qui sont compliqués, qui est difficile d'expliquer. Et là, il va falloir synthétiser un petit peu les qualités de l'objet pour en faire quelque chose de désirable auprès de la communauté des collections.
Ce que vous nous dites pour nous arrivons à la conclusion de cette émission, c'est que finalement le métier est extrêmement varié, aussi varié que les objets et la convoitise qu'ils peuvent susciter. Pour en revenir au début de notre émission, l'image qu'a le grand public finalement des ventes publiques, des ventes aux enchères. À l'issue de notre conversation, semble totalement déformée. Les ventes publiques ne sont pas réservées ni à une élite économique, si je comprends bien ce que vous dites, ni même à une élite culturelle, puisque vous me parliez d'acheteurs souhaitant simplement sortir des circuits de la grande distribution. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de dresser un portrait type de la personne qui fréquente les ventes publiques ?
Non, absolument pas. Ces personnes sont très diverses. Elles sont mues, je dois dire, par la curiosité ou la passion. Donc c'est à peu près le seul point commun que l'on puisse trouver à nos acheteurs. Ensuite, on l'a vu, ils sont d'une très grande diversité dans leurs moyens d'achat et dans leur domaine d'intérêt. En tout cas, ils sont tous eux-mêmes curieux et passionnés, et ils sont à la recherche de quelque chose, à la recherche d'un objet rare. Ils viennent soit avec des idées préconçues ou non, mais en tout cas, ils recherchent quelque chose qui va, un objet, un tableau qui va les faire
vibrer,
qui va les faire vibrer, qui va les intriguer, et pour lequel ils vont éprouver ce processus d'achat qui va leur faire justement lever la main pour enchérir.
Quel conseil donneriez-vous à un auditeur qui n'a pas encore fréquenté une maison de vente ? Bon, bien sûr, de s'y rendre, mais de s'y rendre dans quel état d'esprit ? En espérant quoi ? En se préparant de quelle façon ?
Le conseil que je donnerais est
de venir sans son chéquier.
Et de venir avec son chéquier. quand on a l'intuition qu'un objet peut être intéressant, et de prendre le temps, la soirée, puisque ça va quand même vite, ou de prendre quelques heures pour travailler un petit peu autour de cet objet, vérifier qu'il est le replacer dans son environnement historique et artistique. Et pour cela, demander conseil au commissaire-priseur ou à l'expert qui est là lors de l'exposition. Vous pouvez le faire par téléphone si c'est à distance. Et d'aller selon son intuition et ensuite de replacer cet objet dans un contexte pour en saisir l'importance. L'importance, puisque c'est en fait ça qui va dicter la valeur de l'objet aussi, c'est son importance dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des formes.
Voire même son importance au regard de l'histoire personnelle. Vous m'avez parlé en préparant cette émission du succès remporté par une vente dite d'art populaire. Alors l'art populaire, si je replace dans le contexte, ce sont des œuvres qui n'ont pas forcément une grande importance dans l'histoire de l'art, mais qui peuvent avoir des résonances dans l'affect de tel ou tel. Est-ce que cela aussi, ça fait partie du métier ?
Chaque objet peut effectivement avoir des résonances diverses. Ces résonances, elles peuvent être liées à la personne qui a possédé l'objet, à la manière dont il a été utilisé. Donc, ce n'est pas forcément dans un environnement artistique. Effectivement, ces pièces d'art populaire vont illustrer des savoir-faire anciens ou des identités régionales qui sont comme un écho assez lointain, un peu perdu, donc que vont rechercher les collectionneurs et les amateurs, tout comme les objets d'art africain ou d'art océanien qui vont évoquer qui vont évoquer des notions cultuelles ou culturelles auxquelles on peut s'intéresser. Donc chaque objet peut porter vraiment un très grand nombre de sens, un très grand nombre de significations qu'il convient à nous aussi, commissaires-priseurs, de décrypter et de mettre en valeur.
Donc pour en revenir également au début de notre conversation, la valeur d'un objet se fait par un dialogue non seulement entre le commissaire-priseur, les critiques, tous les tiers qui peuvent juger de la valeur de tel ou tel objet, mais aussi au regard des désirs enfouis des acheteurs.
Oui, et d'ailleurs, nous construisons aussi nos catalogues dans un dialogue avec les collectionneurs et avec les acheteurs, puisque nous les fréquentons, et nous allons nous-mêmes nous inspirer de leur goût et de ce qu'ils recherchent pour mettre ces objets en valeur, évidemment.
Alors, si ces désirs profonds de chacun des acheteurs a son importance, et si elle est même cruciale, que ressentez-vous finalement? Si vous deviez résumer les nouvelles tendances qui se profilent parmi ces acheteurs, quelles sont-elles? Vous avez parlé de mots assez forts. C'est parler du désir d'objets durables, de quête de sens, d'une volonté d'aller vers la singularité contre la massification. Est-ce que finalement, mis bout à bout, tous ces désirs ne font pas sens, justement, et ne permettent-ils pas d'avoir un regard singulier, original et probablement révélateur sur les forces profondes qui animent notre société ? Est-ce que la position de commissaire-priseur n'est pas un poste privilégié d'observation des mutations et des évolutions des sentiments qui agitent nos contemporains? Et si tel est le cas, comment les caractérisez-vous?
Effectivement, on pourrait dire que dans une salle de vente, on cherche en quelque sorte des objets jalons qui permettent à chacun de se situer dans le temps, de se situer dans l'espace. C'est aussi une manière de se resituer dans l'histoire que de rechercher ces objets.
Oui, c'est-à-dire que face à un monde qui est celui du présent et du présent, parce que la consommation, elle est toujours dans le présent, c'est-à-dire qu'il s'agit de reconsommer, à l'inverse, l'achat dans une maison de vente est radicalement différent, parce qu'il réinscrit dans une temporalité qui est celle du temps long, qui est celle de la mémoire, et peut-être aussi du pari sur l'avenir. Car lorsqu'on achète un objet qui est porteur d'histoire, sans faire de la spéculation, on espère aussi qu'il va continuer à traverser le temps et se projeter dans l'avenir, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement, on pourrait dire que tous ces objets qui sont recherchés, qui sont transmis de génération en génération, sont comme les maillons d'une chaîne, d'une grande chaîne affective, de choses qui sont comme les choses héritées de génération en génération, qui sont transmises.
Une longue chaîne affective, c'est un très beau terme. Et je vous propose de conclure sur celui-ci. En effet, la chaîne affective, c'est probablement, à l'issue de notre conversation, ce qui semble résumer l'activité des maisons de vente volontaires françaises dans leur activité quotidienne. C'est aussi ce qui semble pousser un certain nombre de nos contemporains à pousser la porte des maisons de vente, des salles de vente, pour découvrir des objets qui les réinscrivent dans l'espace, vous l'avez dit, mais aussi dans le temps. Et qui permettent, parce qu'ils sont porteurs de sens et d'histoire, de nous resituer. Et tel est finalement l'essentiel dans une vie humaine, c'est comprendre que nous ne sommes pas seulement des particules élémentaires virevoltant dans le présent, mais des êtres doués de raison, mais aussi de mémoire et désireux de transmettre. Et c'est le dernier mot, votre convention nationale, la convention nationale du CIMEV avait pour thème cette année découvrir, expertiser, vendre. Peut-être aurait-il fallu y adjoindre un dernier terme, celui d'une dernière action, celle de transmettre. Qu'en pensez-vous ?
C'est un bon résumé, effectivement, de notre activité, transmettre.
Merci Damien Leclerc.
Merci à vous. Thank you.